et des débats avec nos invités. Joie et déception du soir, quelle consigne de vote, quelle dynamique pour le second tour.
Élection présidentielle, premier tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, bip, c'est parti.
Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais sur une péniche, sur le lac Léman.
Salut les AMG, deux jours avant les élections, eh bien c'est peut-être le moment de débattre autour du film Les Nouveaux Chiens de Garde. Ce que je vous propose de faire au cinéma associatif Le Rex à Chauvigny, dans le département 86, et le débat sera animé par Claude Benoît Gonin et Jackie Séguré de l'APTE et de Pierre Audin de l'association Acrimed. Alors donc rendez-vous vendredi 20h30 au cinéma associatif Le Rex à Chauvigny dans la Vienne.
Caprange, l'espérance de vie n'augmente plus. Nous sommes de plus en plus nombreux à vieillir sur les genoux. C'est le résultat de notre traite de plus en plus tard, de la compétitivité, du productivisme, du travailler plus. J'en conclus donc, tout corps recevant un coup de pied dans le cul termine sa course en avant, donc sur les genoux. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour à tous. Si vous pensez que la cuisine gouvernementale est un plat un peu indigeste, nous vous donnons rendez-vous du 26 au 29 avril pour la première édition du festival Laissons mijoter. Histoire entre les deux tours de faire une parenthèse, de parler culture et d'essayer de penser la politique autrement. Y seront invités une quinzaine d'auteurs et d'artistes, dont des voix familières de Là-bas si j'y suis, Gilles Perret, Eric Hazan, mais aussi l'écrivain britannique John Berger, le réalisateur palestinien Elia Souleyman, le philosophe Jean-Christophe Bailly, ou encore le comédien Jacques Bonafé. Voilà, le tout dans un village de 170 habitants, au milieu des vignobles du Mâconnais-Beaujolais, à 50 minutes de Lyon. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. J'appelais pour signaler une émission très intéressante de Dominique Rousset, l'économie en question. Dominique Rousset, que tu avais interviewé, je crois, Daniel, à l'occasion d'une émission sur les économistes de garde. Eh bien, Dominique Rousset a fait une émission s'interrogeant sur le rôle des économistes et des médias, et une émission en forme d'autocritique, où on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit, mais qui mérite d'être salué, parce que c'est pas souvent qu'un média fait son autocritique. Donc voilà, l'émission est écoutable en podcast sur le site de France Culture. Donc je la conseille à tous et à toi Daniel. Allez, ciao.
Merci pour tous ces messages et ce dernier message, notamment sur notre consoeur Dominique Rousset, qui opère sur France Culture. Effectivement, elle était présente dans les deux émissions que nous avions consacrées à ce thème des économistes, des experts économistes qui dissimulent une partie de leurs activités entre leur diplôme qu'ils mettent en avant et ce qu'ils taisent. Bien souvent, ça ressemble à des conflits d'intérêts. C'est un thème que quelqu'un comme Frédéric Lordon avait traité ici même, dans la Basse Égypte, puis le monde diplomatique. Et puis, on avait effectivement, avec François Ruffin, évoqué ces sujets les 2 et 3 janvier. Dominique Rousset avait participé avec effectivement un sens tout à fait lucide de la critique, et voire même de l'autocritique. Donc merci pour ce message et pour les autres. Bien sûr, chers AMG, alors je sais ce que vous attendez, oui, vous attendez tous de partir en Suisse avec avec vos économies, avec votre argent, avec votre fortune, votre patrimoine et tout, parce que évidemment, si jamais la gauche revient, il faut vite fuir. Alors, vous avez hésité entre la Belgique, le Bruxelles, Londres et la Suisse. Vous dites, ce serait peut-être quand même pas mal d'aller en Suisse. Alors on va, comme on a commencé à le faire hier, vous donner des conseils pour fuir, amis riches. L'exil fiscal, c'est notre thème du jour. Et l'exil fiscal, c'est le martyr des riches. Et oui, ne rigolez pas, les riches aussi sont malheureux. Chanteurs, sportifs, milliardaires, ceux qui planquent leur pognon en Suisse pour échapper au fisc ne scandalisent même plus. On se dit, oh, on ferait pareil à leur place, hein, Jeannot, que, bah, dis donc, si on avait, bah, on ferait pareil. Sauf que, quand même, c'est autant qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, sauf que c'est 80 milliards d'euros de pertes de recettes, de déficit, de recettes fiscales et sociales dues à la fraude, une somme qu'on peut rapprocher des 80 milliards d'euros du déficit pour 2012. Et tout ça avec la bienveillance du gouvernement, selon le sénateur Éric Bocquet, qui est rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Parce que c'est pas un sujet rigolo du tout, c'est pas un sujet folklorique du tout, c'est pas seulement quelques nantis agaçants qui planquent leur fric. C'est bien plus grave que ça, qui vole le fisc, vole le peuple. Ce serait bien que ça devienne une devise. Ça l'est quasiment dans un certain nombre de pays, des pays d'Europe du Nord. En tous les cas, il y a bel et bien là un détournement, il y a bel et bien là une délinquance de nature tout à fait criminelle dans le fait de fuir et de s'exiler. Il ne s'agit pas évidemment de condamner les exilés tous, mais il y a là un détournement de fonds qui ne profite pas à la communauté. Et il y a là une dépendance entre les riches et les pauvres, ou l'appauvrissement d'une partie de la population. Donc c'est pas rien que ce sujet, on peut être étonné qu'il n'ait pas été plus présent dans la campagne électorale, qui n'est pas finie. Et je vous conseille tout de suite d'entrée de jeu un livre d'Antoine Payon qui s'appelle « Ces 600 milliards qui manquent à la France », qui vient de sortir au Seuil. Oui, oui, son titre, c'est bien ça. C'est 600 milliards qui manquent à la France. Et c'est tout à fait édifiant. Voilà notre sujet du jour, l'exil fiscal ou le martyr des riches, avec Charlotte Perry. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, écoute, on voulait te signaler qu'on jouait le texte de Frédéric Lordon, D'un retournement l'autre, au Théâtre Montfort, dans le 15e à Paris, lundi 23 et 30 avril à 20h30 et le 14 mai à 20h30. Merci, au revoir.
Bonjour, le repère de Nevers a lieu le 19 avril, ce jeudi, c'est à 20h, c'est comme d'habitude au bar Les Copains d'abord, et les sujets seront assez nombreux pour que vous veniez, nombreux vous aussi, et nous continuerons le mois prochain.
Sur la sauge écarlate ou le bleu serpolé, quand l'aube en feu rend deux fois rose la bruyère, ou lorsque midi boit la goutte de lumière du calice des clos que la nuit emperlait, par les champs diaprés ou le val violet, innombrable, fervente, et l'érique ouvrière, l'abeille en butinant fait son bruit de prière, puis le soleil couché rentre dans son chalet. Ainsi, pendant le jour, notre errante pensée, au gré des bois, des monts et des flots dispersés, mène dans l'air qui danse un invisible cœur. Et dès la nuit, au vent des cimes et des grèves, revient, frileuse, à la ruche de notre cœur, lourde de suc, d'azur, de parfum et de rêve. François D., c'était pour ce pauvre apiculteur qui a laissé un message aujourd'hui. Je compatis à son chagrin.
En France, on n'a pas viré notre cutie depuis 1789, on parle des droits de l'homme et on en fait une fête, et moi je trouve que c'est... Je n'aime pas. Je n'aime pas.
€600 milliards ont échappé au fisc français grâce au banquier privé calviniste genois. Thank you.
La délocalisation, c'est une aventure juridique et fiscale, mais c'est avant tout une aventure humaine. C'est des gens, effectivement, qui décident de quitter la France pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils y payent trop d'impôts, peut-être parce qu'ils veulent se rapprocher de leur argent. Et ils en ont assez, des grèves, etc.
C'est eux, les banquiers genois, qui organisent le transfert par des paradis fiscaux à Curaçao, Bermudes ou même Jersey, qui créent les écrans successifs qui doivent protéger cet argent du regard du fisc français.
On est dans un monde libre. Je veux qu'on est libre, il faut pouvoir bouger, il faut arrêter de se fermer comme ça, d'avoir un petit esprit étroit, et puis l'incitation à la révolte. C'est malheureux, c'est absurde, c'est rétréci. Non, sincèrement, je déteste cette attitude. Vive la liberté.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV Lyria numéro 9773 à destination de Genève. Il desservira la gare de Bellegarde.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Charlotte Perry. Exil fiscal ou le martyr des riches.
Alors hier, je me suis baladée sur la rive du lac Léman, à Lausanne, en compagnie de François Michelou, qui s'occupe de l'installation des riches Français persécutés par le fisc, ici en Suisse, où la douceur de l'impôt apaise et tranquillise leur esprit.
Et là, on a cette impression de transcendance en voyant la cime enneigée et le ciel au-dessus. Et c'est quelque chose qui a un effet très apaisant sur l'âme.
Il citait Victor Hugo.
Victor Hugo est venu ici à Lausanne et a écrit une lettre à un ami dans laquelle il décrivait la ville. Et il disait, on voit le lac, au-dessus du lac, les montagnes. Et au-dessus des montagnes, les nuages. Au-dessus des nuages, Dieu.
Et il me renseignait également sur les codes de conduite à tenir ici, en Suisse. J'apprenais que les matus vus n'étaient pas du tout appréciés.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place ici pour les matus vus, donc il n'y a pas vraiment de yacht hein, ici. Donc c'est plutôt des bateaux à voile, si vous voulez. Les gens ont des bateaux à voile. Donc je pense que les gens qui vivent pour paraître, la Côte d'Azur, ils espéreront mieux. Quitte à payer plus d'impôts.
Et aujourd'hui, monsieur Michelou tenait absolument à me faire visiter l'hôtel Beau Rivage, un palace de la Belle Époque. Un des plus beaux 5 étoiles de Suisse, selon lui, où ses clients se plaisent à flâner. Je vais donc le retrouver au pied de l'hôtel Beau Rivage pour une visite guidée de ce lieu incontournable de rendez-vous des exilés fiscaux français. Ah oui, alors là, c'est l'entrée Beau Rivage Palace. On passe sous une énorme arche. Rentre dans un jardin avec des sapins partout. On va rentrer dans l'hôtel.
On est dans la place. Alors on avance dans les corridors feutrés du Beau Rivage. Donc on est sur les pas finalement du tsar, du roi de Jordanie, de beaucoup d'autres anonymes. Et là, on va arriver dans un des salons. J'espère qu'il y en a un qui est ouvert. On va voir ça. Voilà, un des salons du Beau Rivage. Vous voyez, c'est des salons Belle Époque qui sont loués pour des mariages, pour des dîners.
Avec un lustre splendide qui descend.
C'est majestueux. À mon avis, les plafonds, là, ils font quoi, 6 ou 7 mètres de haut.
Avec des statues un peu partout.
Exactement. On est vraiment dans le style... de la fin du 19e siècle.
Il y a des vitraux autour des fenêtres. Un plafond qui est peint, pareil, avec des anges qui jouent de la harpe.
Ouais, on est hors du monde, là, on est arrivé, on est au paradis.
Merci. On ressort du salon de la rotonde. On rentre dans le salon des arcades. Qu'il y a un nombre considérable de salons. À chaque fois, on change complètement d'atmosphère.
Malheureusement, l'hôtel est bien occupé aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus qu'on dérange les gens. Je vais essayer de vous amener sur la terrasse qui est devant l'hôtel.
là. Donc on rentre dans un salon, une cave à vin. Bonjour. Donc là, on se trouve sur une terrasse, la terrasse qui donne sur l'arrière du Beau Rivage, en fait, et sur le lac Léman.
C'est ça, exactement.
Donc les gens sont installés dans des fauteuils en osier, font face au lac.
J'ai des clients qui passent vraiment leur vie ici autour. Hein.
Autour du Beau Rivage ?
Oui, oui, qui viennent le matin, prendre le café, au fitness, ils vont manger à midi, ils ont un rendez-vous, un verre, prendre le thé. Ils passent vraiment leur journée autour du Beau Rivage. Voilà, une magnifique villa qui est donc dans ce grand parc, au-dessus du lac, avec les magnolias en fleurs.
Ah, c'est magnifique, les fleurs blanches.
C'est énorme, hein, ces magnolias sont très beaux. Les gens me disent, on retrouve la France d'il y a 30 ans. Hein, on rentre dans les magasins, on nous dit bonjour. Les enfants, on croise des enfants à l'école quand on amène nos enfants. Les enfants disent bonjour aux adultes. Et ça, c'est des choses qui touchent beaucoup. Hein, parce que c'est vrai, quand on arrive à un certain âge, on a parfois le sentiment que le monde a changé un peu trop vite et qu'il n'a pas changé pour le meilleur. Et c'est vrai qu'ici, on a un peu un retour en arrière, mais dans quelque chose de positif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on retrouve des choses qu'on regrette, qui viennent de notre passé. Le monde c'est peut-être moins dégradé, on peut dire comme ça, ou moins vite ici en Suisse. Et donc quand vous êtes en plus dans des endroits privilégiés comme ici, au bord du lac, dans un endroit qui est plutôt chic, vous avez le sentiment d'être un peu hors du monde et ça donne un sentiment, je pense, de sécurité. On se dit, ben voilà, quoi qu'il arrive autour du monde, on retourne presque dans le giron maternel, vous voyez. On finit comme ça ?
Ouais.
Ça marche.
Des bombes en Tchétchénie. Unga, unga, wa, vive la Suisse. Il pleut des bombes en Algérie. Unga, unga, wa, vive la Suisse. Unga, 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 wa, vive la Suisse. Unga, 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 wa, vive la Suisse. Il pleut des bombes à Téhéran quand y a du vent. Unga, unga, wa, vive la Suisse. Il pleut des bombes quelquefois l'an. Unga, unga, wa, vive la Suisse. Unga, 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 wa, vive la Suisse. Unga, 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 wa, vive la Suisse. S'il pleut des bombes à Tahiti, je mange une fondue au milieu du lac Léman en chantant ukulélé. Te quiero ma vaine, te quiero ma vaine. S'il pleut des bombes à Tahiti, je mange une fondue au milieu du lac Léman en chantant ukulélé. Te quiero ma vaine, te quiero ma vaine.
Accueillir l'argent du persécuté, c'est le devoir que Dieu ordonne aux banquiers. C'est Jean Ziegler qui nous disait ça hier en évoquant Genève, le plus ancien paradis fiscal, puisqu'il évoquait l'histoire, les Huguenots fuyant la France et venant se réfugier là. Et voilà comment naquit l'histoire de la banque suisse avec ce conseil, ce devoir de solidarité que de recevoir l'argent des persécutés. Évidemment, le temps est passé, la persécution n'est plus ce qu'elle était, mais Jean Ziegler est toujours là et très très critique vis-à-vis du pays où il vit et où il a grandi. Jean Ziegler n'est pas seulement membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui fait qu'il vient assez souvent nous voir et nous parler à travers ses bouquins d'histoire de misère du monde. Il a étudié de près le système bancaire suisse qui lui a valu beaucoup d'ennuis avec son pays, non pas avec son pays, mais avec les banquiers suisses qui l'ont poursuivi de mille manières. Il jouit à cause de cette fonction aux Nations Unies d'une certaine immunité. Sinon, il serait obligé de leur verser des sommes considérables. C'est une bagarre continuelle. Et on va comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire que d'aller planquer son argent dans un pays comme celui-là, dans une ville comme celle-là, parce que là on est à Genève, il y a à cette richesse une histoire.
Le banquier helvétique est à la fois quelqu'un d'extraordinairement compétent, il faut le dire, techniquement compétent, qui s'appuie sur une longue tradition de la dissimulation, donc sur une structure idéologique très solide. C'est pas un aventurier comme un banquier ukrainien ou de Bahamas ou n'importe quoi. C'est quelqu'un qui s'appuie sur une structure de pensée extraordinairement solide. Le calvinisme bancaire, ce n'est pas du pipi-chasse. Ils ont lavé l'argent de Hitler, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'or que Hitler a volé dans 11 pays occupés, dans les camps de concentration. La Reichsmark n'était plus convertible internationalement. Hitler devait acheter des matières premières stratégiques pour continuer la guerre dans le monde entier avec des devises. La seule chose qu'il avait, c'était l'or volé dans les pays occupés ou dans les camps de concentration, les dents en or, etc. Et surtout aussi par évidemment l'horrible massacre des populations juifs, le crime le plus monstrueux qu'on puisse imaginer dans les temps modernes, en tout cas. Et c'est les banquiers suisses qui étaient les receleurs de Hitler, qui ont fait le travail que Hitler ne pouvait pas faire, c'est-à-dire rendre légal l'argent volé, laver l'argent. Et deux fois par semaine, à Bâle, des camions remplis d'or volé, accompagnés par des SS, ont traversé la frontière suisse, sont venus à Berne, à la Banque Nationale, et là, cet or a été fondu, été mis en barre, comme on dit, et marqué par la croix helvétique et avec un numéro enregistré de la Banque Nationale Suisse, et renvoyé, après déduction d'une commission évidemment juteuse de 30 ou 40%, renvoyé aux assassins de Berlin, qui pouvaient ensuite négocier internationalement cet or devenu suisse et payer avec les revenus de cet or lavé grâce à la Banque Nationale Helvétique, pouvaient acheter pour des millions de devises convertibles partout dans le monde, le nickel, le chrome, le wolfram, etc., les métaux stratégiques dont ils avaient besoin pour fabriquer leurs blindés, leurs canons, et ainsi de suite. Donc les banquiers ont été, durant la Deuxième Guerre mondiale, les receleurs efficaces de Hitler, et la neutralité a servi de masque. D'ailleurs, le dernier convoi d'or volé accompagné par des SS qui est venu à Berne était à la mi-avril 1945, 15 jours avant le suicide de Hitler à la fin du Troisième Reich. Donc ça montre la solidité de cette hypocrisie, la solidité de ce cynisme incroyable. Le client est sacré, il a toujours raison, quel qu'il soit, tout qu'il soit. Et moi, comme citoyen suisse, qui était longtemps député de cette République de Genève au Parlement de la Confédération, j'ai écrit donc « L'or, la Suisse et les morts » pour dénoncer le pillage des créanciers juifs qui n'ont pas retrouvé leur argent après la guerre. Parce que ça, c'est aussi un aspect, puisque quand les survivants sont arrivés devant les guichets des banques zurichoises et genoises, eh bien, les banquiers suisses ont dit « Mais écoutez, vous dites que votre grand-père a déposé de l'argent en Suisse. Où est le certificat de décès? Prouvez que vous êtes l'héritier. » Et le pauvre descendant, fils ou petit-fils du martyr d'Auschwitz, disait « Mais à Auschwitz, à Buchenwald, etc., il n'y avait pas de certificat de décès. » Et le banquier derrière son guichet suisse, zurichois, à Lugano, à Bâle et surtout à Genève, disait bah, « Dans ce cas, je ne peux rien faire, repartez. » Donc là, le cynisme des banquiers suisses face aux créanciers juifs ou aux descendants des martyrs des camps de concentration, a atteint un sommet jamais atteint auparavant. Donc il y a toute une histoire quand on parle maintenant d'évasion fiscale de la France et de la Suisse, et ça continue jusqu'à ce jour. Les banquiers ont été, durant la Deuxième Guerre mondiale, les receleurs efficaces de Hitler, et la neutralité a servi de masque. Les banquiers privés genois, c'est une race vraiment à part d'hommes modestes, taciturnes, très très morales, très austères. Ce n'est pas du tout des banquiers flamboyants qui jouissent de leur milliard, vraiment, parce qu'ils se refusent tout, puisque dans le calvinisme, la modestie est la seule façon de vivre qui est agréable à Dieu. Ils s'infligent à eux-mêmes l'austérité et ils sont assis sur des montagnes d'or quand même, mais ils n'en font rien pour eux-mêmes. Mais ils sont compétents, ils sont totalement cyniques. Un cynisme total. Ils disent on n'est pas les gendarmes du monde. Notre moralité, c'est la comptabilité. On garantit une administration comptablement irréprochable de cet argent. Nous ne volons pas nos clients, mais on a la libre convertibilité et on ne veut pas savoir d'où vient cet argent, quelle est sa naissance, quelles sont les conditions de son accumulation, etc. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Nous accueillons l'argent quand il arrive à nos guichets. Ce qui est évidemment une hypocrisie totale parce que leur chargé de mission, c'est le terme technique, sillonne la planète et notamment la France, prennent contact avec les riches de partout, avec les soi-disant classes dirigeantes. Et c'est eux qui organisent l'occultation et l'évasion fiscale. C'est eux, les banquiers genois, qui créent les écrans successifs qui doivent protéger cet argent du regard du fisc français. Eh bien, ils sont extraordinairement habiles, extraordinairement actifs, extraordinairement organisés. Et l'hypocrisie de la libre convertibilité, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne fait qu'accueillir l'argent qui vient chez nous et où un réfugié du fisc, pauvre réfugié du fisc, vient demander abri dans nos banques, ça c'est évidemment, c'est du cirque, c'est de l'hypocrisie, ça n'existe pas. Eux, ils organisent la décapitalisation. Aujourd'hui, la République française est une grande, vivante démocratie. Ben, voler une démocratie est un méfait, évidemment. Pourtant, ils le font. 600 milliards selon les calculs et les preuves apportées par Antoine Peillon dans un extraordinaire livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil, 600 milliards d'euros ont échappé au fisc français grâce aux banquiers genois. Et ceux qui payent des impôts en France, c'est les travailleurs, c'est les salariés, etc. Mais les très riches ont leur argent à Genève.
À part la musique, quel est selon vous le point commun entre Charles Aznavour, Patricia Cass, Yannick Noah ou Jeanne Moreau?
France 2, 13 décembre 2006.
Réponse, tous sont domiciliés en Suisse. Les chalets en bois, la montagne, les ont sans doute séduits, certes, mais pas autant que les avantages fiscaux concédés par ce pays. Là-bas, ils ne payent qu'un forfait négocié avec l'administration helvétique avant installation et oublier l'ISF.
Vous voyez pourquoi je suis revenu ? C'est le plus important pour moi. Ça, mes enfants.
Depuis son bureau, désormais, Alain Afflelou a vu sur les photos de ses fils et sur la butte Montmartre.
Mieux, c'est la France, c'est moi.
Ça n'a pas toujours été le cas. Entre 96 et 99, il a passé 3 années en Suisse.
J'ai profité d'être obligé pour mon boulot de me trouver à Genève pour bénéficier des avantages fiscaux que ce pays offre aux étrangers.
Fiscalement, ça faisait des économies de quelle proportion ?
Eh bien, de 1 à 30. Quand je payais 100 en Suisse, j'aurais payé 3000 en France. C'est énorme. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne partent que pour ça.
Et en Europe, les échappatoires pour riches Français sont nombreuses. La Suisse, pour les stars du showbiz ou du sport. La Belgique, pour les nababs du business, comme la famille Muliez, détentrice des supermarchés Auchan. Ou l'Irlande, pour les écrivains, comme Michel Houellebecq. Un manque à gagner pour les caisses de l'État, estimé à 11 milliards d'euros par an, l'équivalent du déficit de la sécurité sociale.
Alors voilà, me voilà arrivé à Plan-les-Ouates, dans la banlieue de Genève. Ovi, M. Paul Dubrul, qui a donc quitté la France en 2006 pour venir s'installer ici, près de Genève. Alors, M. Dubrul était maire de Fontainebleau pendant 11 ans. Il a également été sénateur de Seine-et-Marne pendant 5 ans. Et il a cofondé le plus grand groupe hôtelier européen, le groupe Accor. Sa fortune est estimée à plus de 100 millions d'euros. Et il fait partie des plus grosses fortunes de Suisse du magazine Bilan. Et Monsieur Dubrul, quelque part, c'est un petit peu le porte-parole de tous ces riches exilés fiscaux qui viennent se réfugier en Suisse. Personne d'entre eux accepte de parler, de s'exprimer, pour expliquer leur choix. Et Monsieur Dubrul, contrairement à tous les autres, lui accepte de recevoir les journalistes.
Bonjour monsieur.
Bienvenue.
Merci.
Vous avez
arrivé là-dessus.
Très bien. Je vous en prie.
Merci.
Je vous offre un petit café.
Ah, bien volontiers. Fraîche,
un café.
Oui.
Et un verre d'eau.
S'il vous plaît.
Merci. Prenez du sucre. Hein.
Jean-Marc, je peux avoir un verre d'eau ?
Oui, bien sûr, merci.
Là, monsieur Dubrul, on se trouve chez vous, dans votre maison, dans le canton de Genève, à quelques kilomètres de Genève. Vous, vous faites partie des personnes qui bénéficient de cette spécificité suisse qui est le forfait fiscal, non ?
Oui. Il doit, et je dois payer, alors je me mélange un peu parce que je mélange un peu les francs suisses et les euros, mais je crois que je dois être à 250 ou 300 000 euros. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de peine à quitter Fontainebleau, mais le bouclier fiscal ne m'aurait pas fait revenir. Et en plus, je dois dire que je me disais, de toute façon, combien de temps ça va durer ? Je me trompais pas beaucoup, quoi. Maintenant, il est déjà supprimé, alors, vous voyez. Et avec le prochain président, quel qu'il soit, que ce soit Nicolas Sarkozy, ce que j'espère, ou François Hollande, eh bien, de toute façon, tout ça, ce sera revu. Donc, il y a aucune pérennité. On est sûr de rien. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Est-ce que vous n'avez pas une sorte de sentiment, quand même, un peu de culpabilité vis-à-vis de tous les gens qui contribuent, à l'effort national français?
J'ai travaillé 50 ans pour bâtir ce patrimoine. Je n'avais rien. Avec Gérard Pélisson, vous savez, on a cofondé Accor. Donc j'ai bâti ce patrimoine, on a quand même créé 160 000 emplois, on a commencé à deux, quand je suis parti, on était 160 000. Toutes ces personnes ont payé des impôts, la société paye des impôts, tout le monde a payé des impôts. Est-ce que vous croyez que M. Mélenchon verse autant, je dirais, dans la grande lessiveuse de l'État ? Bien sûr, il fait de très beaux meetings. Puis je crois qu'une fois, il a dû dire qu'il fallait me couper la tête. Mais à côté de cela, qu'est-ce qu'il apporte ? Je crois que j'ai donné, et au moment où je dis « maintenant je prends ma retraite, je vais m'occuper maintenant de gérer mon patrimoine », je le gère au mieux dans le cadre de la plus stricte légalité. Et ben voilà, on est libre, il y a l'Europe, il y a le monde. Ce n'est pas avec ces discours démagogiques en disant « on va taxer les riches et on va les empêcher de partir » qu'on va créer une dynamique dans notre pays. C'est démagogique et bébête. C'est plus qu'absurde, c'est bébête. Tout ceci, ce sont des effets d'annonce, ce sont des effets de manche, ce sont une escalade démagogique, et je pense que après les élections, tout ceci va rentrer dans l'ordre. C'est un débat hexagonal, étroit et mesquin.
Borle 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 bor
Mon nom est Philippe Kennel, je suis avocat en Suisse, à Lausanne et à Genève. Je suis spécialisé dans les conseils aux personnes fortunées et plus particulièrement dans la délocalisation de ces personnes, soit vers la Suisse, soit vers la Belgique. Moi, je m'occupe de ces personnes depuis environ 20 ans. Moi, je me considère par rapport à elles comme un guide de montagne, c'est-à-dire qu'elles me disent où elles veulent aller et puis je les emmène par le meilleur chemin à leur rythme. Et au fond, la délocalisation, c'est une aventure juridique et fiscale, mais c'est avant tout une aventure humaine. C'est des gens, effectivement, qui décident de quitter la France pour différentes raisons, peut-être parce qu'ils y payent trop d'impôts, peut-être parce qu'ils veulent se rapprocher de leur argent, souvent parce qu'en fait, ils en ont assez du système de fonctionnement de la société française, qu'on leur dise que si elles sont riches, c'est parce qu'elles ont volé et elles en ont assez des grèves, etc. Mais dans tous les cas, c'est un déchirement. C'est des gens qui se sentent profondément français quand leurs amis, leurs familles, leurs petits-enfants en France, et c'est de toute façon une déchirure. Comme beaucoup de gens n'aiment pas les personnes fortunées, alors ils n'aiment pas qu'on parle d'immigration, mais c'est des personnes humaines, et c'est une forme d'immigration comme une autre, avec ses douleurs, avec ses déchirements. C'est vrai qu'elle se distingue parce qu'elle a souvent une motivation d'ordre fiscal, mais sur le plan humain, c'est une forme d'immigration comme une autre, et qui pose aussi d'ailleurs les mêmes problèmes d'intégration dans le pays où on se rend. Je pense que si vous allez faire le tour des couples qui se sont délocalisés, c'est vrai qu'on voit souvent des femmes qui diront je regrette quand même l'époque où on était en France. Je dirais que, étant donné que la délocalisation a un coût humain important, évidemment qu'il faut que ça se traduise par des économies fiscales quand même importantes, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc je dirais que personnellement, les gens qui se délocalisent, c'est des gens qui ont une fortune globalement supérieure à 8 millions d'euros.
8 millions d'euros ?
Oui, 8 millions d'euros. Oui, c'est essentiellement des rentiers, des héritiers ou des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. Vous savez que quand des gens quittent un pays, les gens du pays quitté, les gouvernants ont toujours tendance à accuser les pays dans lesquels les gens vont. Je vous rappelle, par exemple, en Union soviétique, quand les gens quittaient l'URSS pour se rendre en France, l'URSS critiquait cette horrible démocratie qu'est la France. Bien, en fait, maintenant, on vit exactement la même chose, que ce soit le président Sarkozy ou le candidat Hollande, ils s'en prennent à la Suisse, mais au fond, le problème, il n'est pas en Suisse, il est tout simplement en France. Et mes clients n'ont aucun remords, moi non plus, aucun problème moral. Pourquoi ? Parce que si la France a été mal gérée, c'est pas de la faute, de leur faute, c'est de la faute des gouvernants, et qu'ils en sont absolument pas fautifs. En plus, c'est souvent des gens qui ont brillamment réussi en France, donc qui ont créé des emplois, payé des impôts durant des années. Donc au contraire, je crois qu'il faut dire que c'est des gens qui ont beaucoup apporté à la France, et la France ne sait pas les garder. La délocalisation, c'est une aventure juridique et fiscale, mais c'est avant tout une aventure humaine. C'est une forme d'immigration comme une autre, et c'est de toute façon une déchirure.
Voilà, préparez-vous donc, amis riches, vous qui allez peut-être devoir vous réfugier en Suisse, si jamais les socialo-communistes revenaient. Oui, le socialo-communiste, c'était l'expression de 1981, lorsque la gauche est passée, et il y avait une véritable terreur. On pensait que les chars soviétiques allaient arriver sur les Champs-Élysées. Alors voilà, des renseignements, ça vous rassure, j'espère, ces voix, ces personnages... avocats, conseillers qui vous attendent pour vous aider à vous installer. Ça a été le cas en 2006 de Paul Dubrulle, qu'on retrouve. C'est le cofondateur des hôtels Accor et il fait partie des Français très fortunés qui résident en Suisse. Le magazine Bilan, qui a dressé la liste des 300 Suisses les plus riches, fait figurer sur cette liste 44 Français exilés fiscaux, qui représentent à eux 44, 30 milliards d'euros de fortune, ce qui est quand même pas mal. Il y a des endroits où les Français se portent bien et on peut en être fier. Paul Dubrulle.
En France, on n'a pas viré notre cutie depuis 1789. On parle des droits de l'homme. Je ne sais pas si les droits de l'homme, c'était de couper les têtes de tout le monde, y compris du roi. Mais enfin, bon, on appelle ça les droits de l'homme. Et on en fait une fête. Et moi, je trouve que c'est... Je n'aime pas. Mais les riches, ça demeure. Regardez Mélenchon. Et même les autres, même François Hollande, il a dit « j'aime pas les riches ». Pourtant, je le connais, François Hollande, il est sympathique. Mais il a fallu, à un moment donné, pour faire bien, qu'il dise « j'aime pas les riches ». Nicolas Sarkozy, il n'en est pas loin d'aller bientôt de le dire, parce qu'il faut se faire des voix, on n'aime pas les riches. En France, le principe imbécile de l'égalité fait que on veut que tout le monde soit pareil. Les gens ne sont pas égaux. C'est l'égalité des chances qu'il faut essayer de voir. C'est l'égalité. Il faut tendre. C'est un peu comme la sainteté. Il faut tendre vers la sainteté ou vers l'égalité, mais ce n'est pas atteignable. C'est idiot l'égalité dans ce sens. D'un autre côté, on a besoin de ces riches, parce que si les riches n'existent pas, les pauvres sont encore plus pauvres. Et ça, c'est une règle. On a beau vouloir faire l'égalité, elle n'existe pas.
Mais alors, vous pensiez que c'était une erreur de la part de Nicolas Sarkozy de se rendre sur le yacht de son ami Vincent Bolloré juste après son élection ?
Il n'était pas arrogant parce que il était invité sur un yacht qui, entre nous, il n'est pas terrible son yacht, mais enfin bon, de Vincent Bolloré. Mais bon, il voulait se détendre, mais ça a été maladroit. C'est tout, parce qu'il fallait se souvenir que les Français voient les choses comme ça. Mais il a été photographié, mais il aurait fait ça discrètement. Mais effectivement, il ne fallait pas qu'il aille là. Ni au Phuket, c'est évident. Mais il n'a pas pensé, il a pas pensé sur le moment qu'il y avait toujours ce réflexe de 1789. Enfin, quand même, plus de deux siècles après, quand même, c'est dur. Hein. En France, on n'a pas viré notre cutie depuis 1789. On parle des droits de l'homme et on en fait une fête. Moi, je trouve que c'est... Je n'aime pas. Je n'aime pas.
Donc, je suis Éric Bocquet, sénateur du Nord, membre du groupe communiste républicain citoyen ici au Sénat. Et je suis rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, qui est au travail maintenant depuis 6 semaines. L'évasion fiscale prend plusieurs formes. On peut délocaliser l'entreprise, on peut délocaliser une partie de l'entreprise dans un paradis fiscal, sans être physiquement soi-même exilé. Il y a des gens qui pratiquent physiquement l'exil fiscal. Donc voilà, elle prend plusieurs formes, mais le but est le même, payer moins d'impôts, échapper à la fiscalité. Les libéraux nous disent il faut bien qu'il y ait des riches. Hein. C'est les propos de M. Dassault, qui est ici sénateur à la commission des finances dans laquelle je siège. Lui, il dit voilà, il faut qu'il y ait des riches pour que tout le monde puisse vivre en dessous. Hein. Et s'il y a des riches au sommet, toute la pyramide sera irriguée de cette richesse. Mais c'est une vue de l'esprit. Ce qu'on constate, c'est que le CAC 40 se porte bien et que depuis la crise de 2008, les profits sont toujours restés dans la fourchette des 37 à 40 milliards de dividendes distribués aux actionnaires. Et dans le même temps, l'État est arrivé à 11 millions de pauvres dans le même pays. Voilà, il faut arrêter l'hypocrisie. Nous, on est pour une autre répartition des richesses. C'est l'objet de cette commission d'enquête aussi.
Je reprends une phrase de Serge Dassault que vous avez citée tout à l'heure, qui a dit également « Mais si la gauche passe au pouvoir, ça y est, c'est fini, le peu de riches qui restent en France partiront ».
Non mais ça, écoutez, c'est un vieux... On entendait ça en 36 déjà, hein, la fuite. On a entendu ça en 80. D'abord, j'ai envie de dire qu'ils sont déjà partis, quoi. Dans quelle mesure cette fortune et cet argent sert le pays ? C'est une évasion, c'est anti-citoyen. Moi aussi, c'est de l'argent qui est volé à la nation, à la République, Les estimations varient, on parle de 40 à 50 milliards d'euros qui échapperaient à la fiscalité. Mais par définition, il n'y a pas un registre clair nulle part de cette évasion, parce qu'elle est bien dissimulée, elle est bien organisée. Mais on est dans des ordres de grandeur comme cela quand même. Hein. Il faut quand même savoir que ça serait un peu plus que l'impôt sur les sociétés dans l'ensemble des recettes du budget de la France, et pratiquement l'impôt sur le revenu, hein, de l'ordre à 40-50 milliards, sur un budget global de 300 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas des petites sommes. Il y a vraiment des moyens à dégager, à mettre en œuvre. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les grands besoins. Et l'objet de cette commission, c'est de démontrer qu'il y a de l'argent. Il faut frapper aux bonnes portes et mettre en place des outils fiscaux qui permettront de solliciter cet argent.
Voilà, et on attend avec impatience le résultat de du travail de cette commission. Ce que dit aussi Éric Bocquet, sénateur du Nord, donc je le rappelle, c'est que tout ça fonctionne avec la bienveillance du gouvernement. C'est avec la bienveillance du gouvernement que des sommes considérables échappent ainsi à l'impôt. Alors, on revient à Paul Dubrulle, qui évidemment a un avis légèrement différent.
Je crois que vous risquez d'être la dernière personne que j'ai interviewée. Je vais vous donner l'interview parce que ma femme n'est pas contente du tout.
Ah. Oui, je me demandais aussi pourquoi tout le monde, toutes les autres personnes qui sont installées ici refusent de rencontrer les journalistes et que vous, vous acceptez.
Parce qu'encore une fois, je me considère comme libre et je pense qu'il y a une mauvaise image de ces personnes qui se déplacent. C'est vrai qu'il y en a sur lesquelles l'image n'est pas forcément favorable, qui ont tout rapatrié leurs impôts ailleurs qu'en France. Mais après tout, c'est leur choix. Ils ont travaillé pour beaucoup toute leur vie. Ils ont payé probablement beaucoup d'impôts en France. Et puis un jour, à la fin de leur vie, ils se disent peut-être, quand on est vieux, on a peut-être des besoins plus grands. Et puis on pense à ses enfants. C'est peut-être idiot, mais on pense à ses enfants. On voudrait leur laisser quelque chose de ce qu'on a réussi à bâtir pendant 50 années de travail. Alors, c'est vrai que je m'interroge parfois. Je me dis, c'est un peu absurde. Mes enfants me disent, mais papa, on n'a pas besoin de cela. Si tu veux vivre en France, vis en France. Nous, ça nous est égal. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal de donner 40 et quelques pourcents d'impôts, sachant qu'ils vont être, pour une partie, très mal employés. On est dans un monde libre. Je veux qu'on est libre. Il faut pouvoir bouger. Il faut arrêter de se fermer comme ça, d'avoir un petit esprit étroit. On est ouvert. Et c'est pas avec les discours lepénistes d'un côté et Mélenchon qu'on va faire avancer les choses. La destruction créatrice de Monsieur Mélenchon et puis l'incitation à la révolte, c'est malheureux, c'est absurde, c'est rétrécise. Je déteste cette attitude. Vive la liberté. Et la liberté, c'est de pouvoir choisir. Le jour où on ne peut pas choisir, on n'est pas libre. Le jour où l'on peut choisir, on est libre.
Voilà, on entend la liberté du renard libre dans le poulailler, libre dans les propos, à travers les propos de monsieur Paul Dubrulle, je le rappelle, une grande fortune française, mais devenue suisse. Co-fondateur de la chaîne d'hôtels Accor. Alors, quel est le point de vue de Jean Ziegler sur cette liberté, les libertés de la banque, les libertés de la spéculation sous le modèle helvétique? Jean Ziegler.
J'ai rencontré un de ces fuyards qui me disait: je suis absolument contre le concept d'égalité. Par contre, je voudrais que le mot liberté soit écrit beaucoup plus gros. Et ces grands capitalistes se basent sur la liberté de circulation, justement, pour justifier leur exil fiscal. Ils ne sont pas responsables de la dette, ils ne veulent pas payer. C'est pour ça que de plus en plus cherchent à s'évader. Et ils sont libres de partir. Alors évidemment, les pauvres, les travailleurs, les chômeurs, eux, ne sont pas libres de partir. Mais les riches, eux, sont libres de partir et le font.
Le néolibéralisme, comme disait Pierre Bourdieu, mon ami, trop tôt décédé il y a 12 ans, Bourdieu disait c'est le nouvel obscurantisme. Je dis c'est un mensonge complet qui sert incroyablement, évidemment, les riches. Les riches invoquent la liberté de ne pas payer d'impôts, d'évacuer leurs capitaux dans les paradis fiscaux. Ça n'a rien à voir avec la liberté, c'est du pillage, c'est un péché capital contre la solidarité nationale
qui est le principe de base de la République, de toute République, et notamment de la République française. Et ce que je constate, le banquier vous dit, s'il a bu un verre, c'est rare qu'il boive des verres, mais enfin, s'il est un tout petit peu plus détendu, il dit finalement, l'impôt, c'est le mal. Si on peut échapper à l'impôt, quel qu'il soit, c'est une bonne chose. Si je peux aider quelqu'un à échapper à l'impôt, puisque l'impôt, c'est quoi ? C'est finalement l'État prédateur puni par l'impôt, celui qui, par sa créativité, par son travail, par son mérite, a réussi. Il n'a pu réussir, évidemment, uniquement parce qu'il vit dans un État civilisé, avec une sécurité, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec une recherche, etc., qui lui permet d'accumuler son argent, qui parfois est phénoménal. Il y a des fortunes. Ici, nous sommes au Paquis, au bord du lac, et en face, ici, il y a Coloni, il y a la colline de Coloni, qui est constellée des villas des fuyards du fisc, du monde entier, d'ailleurs. Du Guatemala, du Brésil, des cheikhs arabes, etc., les Français, massivement, bien sûr, les dirigeants des multinationales, mais aussi les fuyards du fisc purs et simples, sont sur la colline de Coloni. Alors, l'or accumulé, les montagnes d'or accumulées dans les sous-sols, vous savez que Genève est plus profond sous terre qu'elle n'est en hauteur. On peut construire jusqu'à 7 étages. Il n'y a pas de tour en Suisse. Jusqu'à 7 étages, on peut construire. Mais on peut construire à 8 étages les cylindres de béton qui abritent les comptes, les coffres-forts, peuvent être construits jusqu'à 8 étages. Et on a des problèmes maintenant. Vous êtes ici dans la rade où le Rhône quitte le lac Léman, là derrière vous, le Rhône quitte le lac Léman dans la rade de Genève pour aller vers Lyon, Avignon, Marseille. Eh bien, là où le Rhône quitte le lac Léman, nous avons des problèmes urbanistiques énormes parce que les fondements des maisons sont attaqués par l'eau, parce que les cylindres de béton qui descendent jusqu'à 8 étages pour abriter les coffres-forts et les trésors des fuyards repoussent des masses d'eau et attaquent donc les fondements des immeubles que vous voyez là, des immeubles d'habitation, de bureaux, et qui longent le Rhône avant qu'ils quittent la Suisse. Et bon, bref, la théorie vraiment du néolibéralisme, qui est totalement contestée par le plus grand des citoyens genois, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui est né exactement il y a 300 ans dans cette ville, mais qui était expulsé immédiatement, et on a brûlé ses œuvres. Le contrat social et les mille a été brûlé par le gouvernement genois de l'époque publiquement pour bien montrer que Rousseau était un subversif qu'on n'en voulait plus. C'était un fils d'ouvrier en plus, c'était un pauvre, donc ça n'aidait pas à son acceptation sur le territoire genois. Eh bien, Rousseau, dans le contrat social, écrit « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » Et c'est la loi qui libère. Donc le prédateur français qui vient en Suisse, ou son complice, le banquier calviniste, ici sur place, qui aide au pillage de l'économie française, eh bien, il viole la loi, évident, la loi écrite et la loi morale, et revendique une liberté qui est la liberté du prédateur et pas du citoyen. Donc il faut le combattre. Ce qui est dangereux,